Donc nous allons attaquer la deuxième partie de l'encyclique. Donc une partie qui commence par le rappel d'un petit épisode biblique qui s'est passé il y a 2800 ans, qui peut paraître complètement anodin, qui est d'ailleurs inconnu par la grosse majorité d'entre vous, mais que Benoît XVI a choisi pour éclairer le sujet qui nous intéresse maintenant, le rapport entre la foi et la vérité. Voilà. Voyez-vous, la Bible est un livre extraordinaire. C'est vraiment un livre qui transcende tous les temps. Et la parole de Dieu, elle est toujours actuelle. Et Benoît XVI a choisi un petit verset biblique, tiré donc du chapitre 7 d'Isaïe, comme titre de la deuxième partie de son encyclique, et une parole qui peut nous parler encore maintenant aujourd'hui, même si elle date de 2800 ans. C'est une phrase que le prophète Isaïe a dite au roi Akaz. On peut replacer un peu cette phrase dans son contexte, ça nous permettra de mieux la comprendre. Lorsqu'Isaïe a dit cette phrase au roi Akaz, Akaz était dans l'anxiété. Il était inquiet, il avait peur face à la puissance de ses ennemis. La Bible parle à Akaz, mais aussi à chacun d'entre nous. Et nous aussi, à l'occasion, nous pouvons être dans la situation d'Akaz. Nous pouvons avoir peur face à nos ennemis, c'est-à-dire, ça peut être nos ennemis intérieurs, des tentations, des mauvais sentiments qui nous submergent, des passions, ou nos ennemis extérieurs, telle ou telle personne de notre entourage qui nous veut du mal, ou plus largement des personnes qui veulent lutter contre les valeurs de l'Évangile. Et nous aussi, parfois, nous pouvons avoir peur. Akaz a peur, et c'est un peu normal, il cherche une sécurité, il cherche un refuge. Et où va-t-il le chercher? Dans une alliance avec un puissant royaume, le royaume de l'Assyrie. Et Isaïe va alors faire comprendre à Akaz que cette alliance, elle est dangereuse pour la foi d'Israël. Vous voyez, c'était une alliance qui était pleine de compromis. Et il l'invite à mettre sa confiance non pas dans des assurances humaines, qui de fait non seulement vont l'éloigner de Dieu, mais en plus vont empêcher Dieu d'agir. Et il l'invite à faire confiance en Dieu qui est le seul, l'unique vrai rocher qui ne vacille pas. Isaïe dit donc au roi Akaz, et à chacun de nous quand on traverse des tempêtes intérieures, « Si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. » Et dans la version grecque de la Bible, on dit « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. » Et les deux traductions s'éclairent mutuellement. En fait, Isaïe invite Akaz à une compréhension, mais vécue, de l'agir de Dieu dans l'histoire. Et c'est vrai que pour comprendre qu'au milieu des tempêtes, Dieu est là, qu'il est fidèle, qu'il est tout-puissant, il faut croire. Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. Tel est donc le titre de la deuxième partie de l'encyclique. Mais n'ayons pas peur de mettre cette phrase à la première personne du singulier. Nous nous sentons tout de suite plus concernés lorsque nous disons « je ». Si je ne crois pas, je ne comprendrai pas. Je ne comprendrai pas quoi? Que Dieu est là, qu'il agit dans ma vie, qu'il tient en main l'histoire du monde. Si je ne crois pas, je ne pourrai pas tenir. Et pourquoi je ne pourrai pas tenir? Parce que si je ne crois pas que Dieu est là, dans ma vie, quand j'aurai un problème et qu'il me semblera une évidence, j'ai bien dit qu'il me semblera une évidence que je ne peux me sortir de ce problème qu'en faisant alliance avec l'esprit du monde, même si celui-ci est dangereux pour ma foi, si je préfère les assurances humaines à l'assurance que donne la fidélité à Dieu et à sa loi, alors je ne pourrai pas tenir, pour la bonne raison que Dieu ne peut maintenir que ceux qui s'appuient sur lui, et qu'il ne peut agir dans la vie que de ceux qui lui laissent un espace d'action, pourrions-nous dire. Parce que souvent, dans notre vie, tout est si bien calculé, sécurisé, que Dieu n'a plus la place de faire des miracles. Regardons dans la Bible, est-ce que Pierre aurait marché sur les eaux s'il n'était pas descendu de la barque? Et en même temps, il n'était pas irraisonnable de la part de Pierre de quitter la barque parce qu'il s'appuyait sur la parole de Jésus. Jésus qui lui avait dit « Viens ». Je me souviens d'une fois dans ma vie où j'ai failli empêcher Dieu de faire un miracle. Il y a sans doute d'autres fois d'ailleurs. C'était un petit miracle, mais Dieu se plaît à parsemer nos vies de petits miracles. Et souvent, c'est nous qui lui enlevons ce plaisir parce qu'on cherche tellement les assurances humaines. J'avais 17 ans, j'étais allée à la messe en semaine. Les messes de semaine sont plus courtes que les messes du dimanche. Et au moment de la communion, je me rends compte que je n'ai pas le jeûne eucharistique. Vous savez que l'Église demande qu'on ne mange pas une heure avant de communier pour préparer notre corps à recevoir Jésus. Il ne manquait pas grand-chose. À la rigueur, j'aurais peut-être pu communier. D'ailleurs, ça aurait été le meilleur moyen de recevoir Jésus ce jour-là. J'ai hésité et je me suis dit, j'obéis. Et en regardant les gens communier, je disais, Jésus, fais quelque chose, fais quelque chose. La messe se termine, je reste un moment prié. Le curé était à la sacristie, rangeait la messe. Et puis, une dame arrive. C'était une habituée des messes de semaine. Et elle dit au prêtre, oh, j'ai été prise dans les embouteillages. Et le prêtre dit, eh ben, je vais vous donner la communion. Qui lui donne la communion. Moi, je me suis avancée. Le prêtre s'est peut-être demandé pourquoi, moi qui n'avais pas communié 10 minutes, un quart d'heure avant, soudain. Voilà. Peut-être qu'il aurait souri en sachant la raison. Mais ce jour-là, j'ai vraiment compris que Dieu aimait l'obéissance et qu'il prenait soin de ceux qui s'en remettaient complètement à lui. Cela ne veut pas dire que dans une situation analogue, Dieu refera le miracle. Dieu est libre de faire les miracles qu'il veut quand il veut. Et parfois, le miracle qu'il fait, c'est tout simplement de nous aider à accepter une situation difficile, voilà, dans la joie. Vous comprenez bien que pour que la foi puisse nous conduire ainsi à lâcher toutes les assurances humaines, il faut qu'elle s'appuie sur quelque chose de vrai, de solide, de réel. Et c'est bien ce que nous dit l'encyclique. La foi sans la vérité ne rend pas sûrs nos pas. Elle reste un bon compte, un beau compte, la projection de nos désirs de bonheur, quelque chose qui nous satisfait seulement dans la mesure où nous voulons nous leurrer. Ou bien elle se réduit à un beau sentiment qui console et réchauffe, mais qui reste lié à nos états d'âme, à la variabilité des temps. Et là, le pape conclut très justement, « Si la foi était ainsi, le roi Achaz aurait eu raison de ne pas miser la vie et la sécurité de son royaume sur une émotion. » Il est important de mettre en lumière ce lien intime qui unit la foi à la vérité. Ce lien qui est combattu, on en a déjà parlé dans nos sociétés actuelles, puisqu'on y verrait facilement la racine du fanatisme. Et dans la culture contemporaine, on reprend des thèmes auxquels on a déjà bien réfléchi. on pense que la seule vérité certaine, c'est la vérité qui provient de la science, qui est mesurable et puis vérifiable par tous. Et on est là en plein les héritiers du positivisme d'Auguste Comte. Donc j'aurais envie de dire, c'est des vérités à notre mesure, vous voyez, qu'on peut étudier en laboratoire, des vérités qui nous sont utiles, parce que c'est indéniable, elles nous rendent la vie plus confortable, qui ne sont pas gênantes, parce que on les tient en main, elles nous possèdent, on les domine. Et cette vérité technologique semble aujourd'hui l'unique vérité certaine, l'unique qui puisse être partagée avec les autres, nous dit l'encyclique. Et à côté de cette vérité scientifique, technologique, qui est la même pour tous, il y a les vérités de chacun, qui consistent, nous dit l'encyclique, dans le fait d'être authentique face à ce que chacun ressent dans son intériorité. Et donc, vérité valable seulement pour l'individu. Vérité technologique, vérité de chacun. Que manque-t-il ? La vérité de la totalité, nous dit l'encyclique. Vous voyez, la vérité sur le mystère de l'homme, sur le sens de la vie, de l'amour, de la mort, toutes ces questions qu'on ne peut pas étudier dans un laboratoire. Et la vérité de la totalité, on peut dire que c'est une vérité qui nous transcende. Là, on ne la tient pas en main, c'est vrai. C'est une vérité qui nous précède, qui nous englobe. Et c'est en fait l'unique vérité qui va pouvoir nous unir tous au-delà de nos moi petits et limités. Or, cette vérité, non seulement elle n'intéresse plus, mais en plus, elle fait peur. On a peur d'une vérité qui va nous dépasser parce qu'on se dit qu'une telle vérité est oppressante, qu'elle écrase les libertés concrètes de chacun, qu'elle ne nous rend pas libres. Et nous, chrétiens, qui savons que cette vérité qui est à l'origine de tout, qui est la destination ultime de tout, cette vérité de la totalité, Benoît XVI le dit, c'est la vérité sur Dieu. Nous, chrétiens, nous ne pouvons que constater avec tristesse que notre monde a peur de Dieu en ayant peur de cette vérité de la totalité. Et cette peur de Dieu, on sait de qui elle vient. Dès l'origine, Satan, après le péché originel, a mis cette peur de Dieu dans le cœur de l'homme. Vous vous souvenez, Adam qui se cache. Et Dieu qui lui dit, Adam, où es-tu ? Je t'ai entendu, j'ai eu peur et je me suis caché. Et l'encyclique va alors poser une question cruciale, qui est peut-être la question la plus importante de l'encyclique. Le pape demande, dans cette situation, est-ce que les chrétiens peuvent apporter leur contribution pour une manière juste de comprendre la vérité, une manière juste de comprendre Dieu, puisque ce n'est pas juste d'avoir peur de Dieu. Et là, on arrive peut-être à la plus belle page de l'encyclique. Le pape va montrer le lien intime qui existe entre amour et vérité. Il montre que cette vérité, on la connaît par l'amour. Que cette vérité, on l'approche quand on est touché par l'amour. Que l'amour est source de connaissance. Je vous cite quelques pages. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que le pape écrit noir sur blanc ce que chacun pressent dans son cœur, mais sans savoir forcément l'exprimer. Parce que ça appartient à l'expérience originelle de chacun. Donc le pape dit « L'amour est source de connaissance. La foi connaît dans la mesure où elle est liée à l'amour, dans la mesure où l'amour même porte une lumière. L'amour donne des yeux nouveaux pour voir la réalité. L'amour est une expérience de vérité. Il ouvre nos yeux pour voir toute réalité de manière nouvelle. L'amour porte en soi une logique nouvelle. Pourquoi les saints ont-ils mieux pénétré que le commun des mortels le mystère de Dieu ? Est-ce qu'ils étaient plus intelligents que les autres ? Pas forcément. Il y en avait des intelligents, d'autres moins intelligents. Mais c'est parce qu'ils ont aimé davantage. Et c'est pour ça qu'ils ont davantage connu Dieu, compris Dieu. Et ça, nous le voyons, c'est une constance pour bien comprendre le mystère de Dieu et même le mystère de l'homme, le mystère de la relation entre Dieu et l'homme. C'est l'amour qui nous le fait comprendre. Pourquoi est-ce qu'une mère Teresa, un saint Vincent de Paul, un père Damien ont-ils su voir la beauté de personnes que le monde aurait facilement rejetées ? Parce qu'ils aimaient. Et cela, nous le voyons même dans notre vie. De qui est-ce que nous nous sentons le mieux compris, le mieux connu, si ce n'est de ceux qui nous aiment ? Ce lien entre l'amour et la vérité. Avec qui sommes-nous les plus vrais, si ce n'est avec ceux qui nous aiment ? Le pape va montrer aussi combien amour et vérité ont besoin l'un de l'autre. Donc je cite... C'est seulement si l'amour est fondé sur la vérité qu'il peut perdurer dans le temps, dépasser l'instant éphémère et rester ferme. Si l'amour a besoin de la vérité elle aussi a besoin de l'amour. Amour et vérité ne peuvent pas se séparer. Sans amour, la vérité se refroidit, devient impersonnelle et opprime la vie concrète de la personne, ce dont notre monde a peur. Lorsque notre monde aura compris que en Dieu vérité égale amour, il n'aura plus peur de la vérité. La vérité que nous cherchons, celle qui donne sens à nos pas, nous illumine quand nous sommes touchés par l'amour. Voyez, foi, vérité, amour. Si vous croyez, vous comprendrez et vous pourrez tenir.